bien que le Seigneur inspire encore des louanges, des prières aussi, même d'intercession, lorsque c'est le moment de la scène. Bon, j'ai mon... On livre les ailes de la foi, dont les pages ne volent pas encore, mais... Voilà, elles sont plutôt en train de se décomposer. Je les préparais parce que il y a le numéro 204 que je vais vous citer tout à l'heure sur les ailes de la foi. Nous prions encore. Oui, Seigneur, je te bénis de nous rassembler, de nous permettre de nous approcher de toi, de nous permettre d'être dans cette attente de toi et, Seigneur, dans... cette consécration, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, sois béni. Instruis-nous encore, parle à nos cœurs, permets-nous de nous exprimer dans la foi, Seigneur notre Dieu, amen. Alors, je ne pense pas être loin du thème développé par Étienne, plutôt dans l'autre aspect. C'est-à-dire, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le Seigneur. Et donc, je vais lire avec vous au chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, versets 20 à 38. Un épisode particulier dans l'Évangile, puisque quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie dans ce monde, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? » Qu'est-ce que ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. » Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Concernant cette expression, lorsque j'aurai été élevé de la terre, eh bien, il faut, pour bien la comprendre, aller au chapitre 3, que nous connaissons bien, dont nous connaissons bien le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais juste au-dessus, au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Par conséquent, lorsque Jésus dit « Il faut, quand j'aurai été élevé de la terre », il fait référence au fait qu'il va être placé sur la croix, à la vue de tous, comme le serpent était placé sur cette perche pour que les Israélites puissent le voir, le regarder et être guéris. Et donc là, Jésus dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le contexte, c'est que il y a un fort désir des Grecs de voir Jésus. Mais ce n'est pas encore le temps. Jésus a dit aussi ailleurs dans l'Évangile, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais il y en a d'autres qui sont là, et donc Jésus faisait cette œuvre. Il est resté dans les limites du peuple d'Israël, dans les limites même géographiques. Il n'a pas été prêché ailleurs qu'en Israël. Et il s'est adressé au peuple qui avait la connaissance de la loi, ce peuple qui avait été mis à part pour le service de Dieu. C'est d'abord à ce peuple qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Mais d'autres étaient là et impatients de découvrir ce merveilleux plan de Dieu. Et c'était le cas de ces Grecs qui ont demandé avec instance à Philippe de pouvoir voir Jésus. Alors c'était une difficulté pour lui. Il en a parlé à André et avec André ils sont allés trouver Jésus. Est-ce que tu pourrais rencontrer les Grecs ? Est-ce que tu pourrais accepter de parler aux Grecs ? Eh bien non, il fallait un peu de patience. Il fallait surtout l'œuvre de la croix, l'œuvre parfaite. Jésus commence par dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est déjà ici en train de parler de sa mort et que c'est de sa mort que va venir le salut et la vie pour beaucoup. Et ensuite, donc, il a cette parole, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc, il fallait cette œuvre parfaite qui s'appliquait aux Juifs privilégiés et responsables de la connaissance qu'ils avaient reçue. Ils avaient été mis à part pour Dieu. Ils étaient du peuple de Dieu, c'était les siens, ceux qu'il avait extraits du pays d'Égypte pour qu'ils lui appartiennent, afin d'avoir un peuple qui lui appartienne. C'est, tout cela c'est dit dans le Deutéronome. Et donc il devait agir selon la connaissance reçue normalement ce peuple. Mais voilà, Israël, dans sa connaissance, n'a pas reconnu le Fils de Dieu. Et Jésus est mort sur cette croix, rejeté par ceux qui devaient l'accueillir. Et c'est là qu'intervient ce qui est le cœur de Dieu, sa miséricorde, sa grâce, sa bonté envers ceux qui le rejettent, puisque Jésus-Christ crucifié a été ressuscité par la puissance de Dieu, et que suite à la Pentecôte, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, Eh bien, ils ont annoncé à ces Juifs qui venaient de crucifier Jésus, ils leur ont annoncé le pardon de Dieu. Ils leur ont dit, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité, alors maintenant, repentez-vous. Repentez-vous, croyez. Croyez en sa grâce, croyez en son pardon, croyez en la justice manifestée en Jésus-Christ, puisque crucifié par le péché des hommes, il a été ressuscité par la justice de Dieu. C'est accompli. Maintenant, vous qui avez rejeté, vous pouvez être pardonné. Et ce message s'adressait d'abord aux Juifs. Et cette œuvre de grâce qui concernait les Juifs, elle pouvait maintenant s'étendre aussi aux païens qui étaient restés dans l'ignorance. Comme Jésus le dit au chapitre 11 de l'évangile, du même évangile, au verset 50 à 52. Alors, ce n'est pas Jésus qui le dit, mais c'est la conséquence donc de son arrestation. « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Ici, donc, c'est bien sûr, c'est l'évangéliste qui commente cette réflexion du sacrificateur qui, lui, pensait que, voilà, pour épargner le peuple de la colère des Romains, en fait, hein, il fallait mieux que Jésus-Christ meure et ainsi il serait tranquille avec les ambitions des Romains qui voulaient régner sans partage. Et comme Jésus était désigné comme le roi des Juifs, il fallait supprimer cette concurrence, donc le faire mourir. Mais c'était dans le plan de Dieu, et ce n'était pas seulement pour le peuple que Jésus devait mourir, mais pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus, bien sûr, savait cela par avance, et il avait déjà anticipé en disant, chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Parce que le plan initial de Dieu, c'est la bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles de la terre. C'est la promesse, bien sûr, faite à Abraham, hein, dès le commencement, dès son appel, alors qu'il a obéi à la voix de Dieu. Eh bien, chapitre 12, verset 3 de la Genèse, nous lisons « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre, pas seulement une famille privilégiée, mais toutes les familles de la terre. L'évangile est le moyen par lequel Dieu appelle à la repentance et à la foi et au salut toutes les nations, toutes les familles de la terre. Et cela a commencé par cette famille privilégiée, cette famille mise à part, qu'était le peuple d'Israël. Et donc les apôtres ont toujours respecté cette priorité donnée dans l'évangélisation au peuple qui avait reçu les promesses, c'est-à-dire au peuple juif, peuple d'Israël. Romains chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juif, premièrement, puis le grec. Les apôtres, les premiers apôtres, allaient, après la résurrection du Seigneur, après la Pentecôte, allaient régulièrement au temple. Et puis plus tard, Paul, lorsqu'il allait évangéliser parmi les nations, se rendait la plupart du temps d'abord à la synagogue pour annoncer aux Juifs qui ne le savaient pas encore l'œuvre de la grâce de Dieu. Et cela a duré pendant tout le ministère des apôtres. Alors, si nous lisons donc justement au chapitre 3 du livre des Actes, versets 17 à 26, c'est Pierre là qui parle. Il vient d'être arrêté donc avec Jean pour le témoignage rendu au Seigneur Jésus. Et il dit donc, verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est encore le début de la prédication de l'Évangile et Pierre s'adresse ici exclusivement aux Juifs en leur disant de saisir la grâce que Dieu leur a faite et que cette grâce était contenue dans la promesse faite à Abraham de bénir en son nom toutes les familles de la terre. Eh bien, ce même langage, Paul va le tenir aux Galates sur la même base, avec le même argument, la même référence, Galates chapitre 3, versets 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham » le croyant. Et Paul, donc, est celui qui a été plus spécialement chargé d'exposer ce plan initial de Dieu, devenu efficace par la croix. Car il ne pouvait pas, donc, intervenir, agir. L'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu ne pouvait pas agir envers tous les peuples, envers le peuple d'Israël d'abord, et envers tous les peuples, sans la croix de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 7, c'est Paul qui parle. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et le résultat donc de l'enseignement de l'apôtre, eh bien, l'enseignement de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, l'enseignement de l'Évangile, eh bien, c'est ce qu'il peut dire, par exemple, aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » La même chose dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, versets 9 à 11. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Le temps là est accompli. Lorsque les Grecs ont posé la question à Philippe, eh bien, ils ont dû attendre. Mais, je peux dire, ils ne perdaient rien à attendre. Puisque parmi ceux qui ont demandé à voir Jésus, eh bien, il y en a certainement qui plus tard ont vibré aux paroles de l'apôtre Paul, comme nous pouvons les lire dans Romains 15, versets 8 à 13. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Espérance qui maintenant est communiquée à tous, aux Juifs, comme aux Grecs, aux barbares, aux scythes, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà, ici, donc je viens de vous parler de cette extension de la bonne nouvelle à toutes les nations. Tous sont concernés, mais il y a cette première partie de la phrase de Jésus, « J'attirerai tous les hommes à moi ». J'attirerai. Et c'est sur ce point aussi que je voudrais insister. N'ayez pas peur, l'Évangile est une puissance, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains. Puissance pour sauver et puissance aussi pour attirer. Car Jésus dit, j'attirerai tous les hommes à moi. L'Évangile, c'est Dieu à l'œuvre, ce n'est pas l'homme qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui est à l'œuvre pour sauver. La puissance du Saint-Esprit pour parler au cœur, pour convaincre et pour consumer cet orgueil ou bien toutes les mauvaises raisons humaines qui peuvent s'opposer à la connaissance de Dieu. Donc, si même vous craignez en quelque sorte d'être dans la résistance, d'avoir une trop mauvaise volonté, même en tant que chrétien, eh bien, dites au Seigneur, « Seigneur, attire mon cœur à toi. » Attire mon cœur à toi. Parce que si c'est toi qui l'attire, je ne pourrai pas résister. Cet amour est si puissant, cette force de conviction est telle que le plus rebelle peut fléchir les genoux. Le plus rebelle peut changer d'attitude se convertir. Et tout ce dilemme, justement, est exprimé dans un cantique. C'est pour cela que j'ai sorti le livre des ailes de la foi au cantique numéro 204. Seigneur, attire mon cœur à toi. Et je vous demanderai de le prendre avec moi, donc, dès la conclusion de ce message. Dieu est vainqueur en ceux qu'il a appelés. Il est capable de les attirer à lui. Et d'ailleurs, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est bien l'œuvre de Dieu qui se fait et que nous devons demander. N'a-t-il pas dit, déjà au sujet de l'Israël rebelle, dans le livre d'Osée, si nous prenons le chapitre 2 de l'épître, du livre du prophète Osée, au verset 16, voici ce que Dieu disait. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, l'Éternel, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le moût et l'huile et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple et il répondra, mon Dieu. Il y a un jeu de mots dans le sens des noms qui est l'eau Rukama et l'eau Ami. Qui correspondent, enfin qui sont l'inverse justement de la promesse qui est faite, je ferai miséricorde et tu seras et je serai donc son Dieu. Voilà ce que Dieu envisageait, je dis bien envisageait pour son peuple d'Israël, qui manifestait tellement de rébellion. Et cette parole s'accomplira parfaitement. Elle s'accomplira parfaitement malgré la résistance d'Israël. Parce que là, c'est au chapitre 2, mais au chapitre 10, 11, verset 4, à partir du verset 1, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, et ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de venir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma, te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Voilà ce que Dieu dit au sujet de ce peuple. Tout un parcours de miséricorde, dès le départ, lorsqu'il l'a attiré à lui depuis le pays d'Égypte où il était esclave pour lui faire connaître sa justice, sa bonté. Et puis, lorsque cet amour n'a pas été vu, n'a pas été reconnu, Dieu a dit, je ne vais pas vous renvoyer en Égypte, mais je vais vous faire passer par une autre étape qui est l'Assyrie. Et là, vous serez encore dans la difficulté, dans l'opprobre. Mais de là, je ne vais pas vous détruire. De là, je vous manifesterai encore ma fidélité. Je renonce à agir, donc, selon ma colère, selon mon ardente colère, dit le Seigneur. Je viendrai, mais je ne viendrai pas avec colère. C'est là que l'Évangile a été manifesté, après qu'Israël ait été ramené de la Syrie et qu'il se soit retrouvé dominé par Rome. Là, le Seigneur Jésus a été manifesté. Là, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume a été annoncée. Et là encore, Israël n'a pas reçu, n'a pas vu l'amour que Dieu lui manifestait. Et à ce moment, l'offense suprême a été révélée, celle qui a porté le Fils de Dieu en croix. Et bien même cette offense-là, Dieu l'a effacée. Par la résurrection de Christ, par la justification de son Fils, par la puissance de la résurrection, Dieu a offert au peuple d'Israël la grâce, le pardon, la restauration, la réconciliation. Alors s'il l'a fait pour ce peuple, il le fait pour tous, pour toutes les nations, pour tous les païens. C'est l'histoire de l'Église. Cet amour incommensurable s'est dirigé maintenant vers les païens, vers les pécheurs ignorants. Et je dirais que même ici, l'histoire s'est renversée, ou plutôt il y a eu un chevauchement, et j'emploie cette expression, que le Seigneur me pardonne si elle n'est pas bonne, mais je dirais que l'Évangile a couru plus vite que son ombre. Parce que l'appel d'amour lancé à Israël, finalement, bien sûr que certains juifs se sont convertis, mais globalement, il n'a pas encore été reçu. Il n'a pas encore été reçu, puisque l'apôtre Paul doit dire à deux reprises dans le livre des Actes, « Puisque vous vous opposez à la grâce de Dieu, nous nous tournons vers les païens. » Il le dit au chapitre 14 et puis à la fin du livre des Actes. Donc l'amour, l'appel d'amour lancé à Israël n'a pas encore été reçu, mais son écho a déjà convaincu les païens. La prédication de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ a rejoint les nations et son effet, eh bien, n'est pas fini. Parce que l'écho de la miséricorde divine faite aux païens finira par être entendu des juifs. Et cela a déjà commencé par ceux qui se sont convertis initialement et par ceux qui, aujourd'hui, viennent à sa connaissance. Et finalement, cet appel de Dieu se transformera, cette miséricorde envers son peuple se transformera en obéissance. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 26 à 36, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je fais ici une remarque. Il n'est pas dit que pour que les Juifs obéissent à la foi, Dieu attend que les nations redeviennent désobéissantes, comme par un jeu d'alternance. Non, les païens continueront à obéir à la foi, du moins ceux qui doivent hériter du salut. Et les Juifs les rejoindront pour former une seule nation obéissante. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger, comme dit Jésus. Le monde se perd dans la désobéissance et l'incrédulité. Il se donnera encore des idoles et des faux prophètes. Mais l'Église reste fidèle à sa vocation. Elle continue d'exalter la miséricorde du Seigneur jusqu'à ce que le reste d'Israël en soit aussi convaincu et la rejoigne. Alors que les croyants se laissent attirer par la puissance de la miséricorde de Dieu, exprimée par le don de son Fils à la croix. Jésus est mort pour vous. Et il vous attire à lui. La convoitise nous attire aussi, dit l'apôtre Jacques. Mais quelle est la puissance de la convoitise lorsque nous avons compris l'immensité de la grâce et du pardon de Dieu. Le Seigneur avait déjà dit par le prophète Job une parole assez énigmatique, mais enfin intéressante, que je vous livre dans Job 36, verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, la répandent sur la foule des hommes. Voici l'œuvre de Dieu. La grâce, la bénédiction pour tous, à partir du fait qu'il attire à lui les gouttes d'eau. L'œuvre de Dieu est une œuvre de bénédiction, de grâce. Et donc, il veut vraiment nous attirer à lui. Et à partir du moment où nous lui appartenons, eh bien, répandre aussi par nous la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Alors je vous propose de clôturer ce message en prenant donc ce cantique sur les ailes de la foi, le numéro 204. Seigneur, attire mon cœur à toi. Dans la foi qu'il a vraiment cette puissance de nous sauver à partir de là. Et sœurs qui se tournent vers toi maintenant. Amen.